Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite.
Dans un monde où tout va vite et où les compétences techniques prennent le dessus, quelle place reste-t-il pour la culture générale ? Simple vestige hélistique ou boussole indispensable pour comprendre notre société ?
Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs.
Et sur le sujet de la culture générale, hein, les auditeurs ont réagi quand ils ont vu le sommaire sur notre site internet www.fautquonenparle.fr. On a Nadia, 34 ans, enseignante à Marseille. Pour moi, la culture générale reste indispensable. Mes élèves veulent tous aller vite, trouver un métier pratique, mais sans culture, on perd le sens. Savoir d'où l'on vient et comprendre le monde, c'est ce qui permet de ne pas se laisser manipuler.
Lucas, 22 ans, étudiant en informatique à Brest. Franchement, la culture générale, ça me paraît déconnecté. Dans mon domaine, ce qui compte, c'est de savoir coder, pas de connaître Molière ou l'histoire de la Grèce antique. On nous demande des compétences concrètes, pas de réciter des citations. Alors, qu'entends-tu aujourd'hui? Qu'entendons-nous aujourd'hui par culture générale? Est-ce qu'il s'agit de la même culture générale d'il y a 50 ans, ce qu'on voyait à l'époque dans les livres et dans les cahiers? Jean-Charles, peut-être?
En fait, je m'autorise à faire deux observations par rapport à la question que tu poses. La première, c'est que je pense que dans cette notion de culture générale, ça veut dire que j'ai un socle de connaissances qui me permet finalement d'être un peu plus éclairé sur le monde tel qu'il est. Mais ce socle de connaissances, culture générale, m'aide aussi à comprendre et à intégrer un certain nombre d'autres éléments culturels, plus techniques, plus professionnels sans doute, plus technologiques. Donc, ma première remarque, c'est que il ne faudrait pas que dans un monde aujourd'hui animé par la technologie à tout va et à tout craint. Et dans un monde, je vais m'avancer un petit peu, où les populismes, de quelque nature qu'ils soient, de quelque origine qu'ils soient, sont à même de pouvoir dessiner ce qu'est la culture ou ce que je devrais savoir et apprendre. Je considère alors que la culture est un élément de liberté, pas un élément de restriction en quelque sorte, ou qui m'est inutile. C'est ça ma première remarque. Ma deuxième, ça veut dire aussi que cette notion de culture générale, c'est un peu, ça rejoint ce qu'on disait tous les quatre depuis deux heures, c'est-à-dire que la culture générale, l'école a une contribution à la construction de cette culture générale. L'école a une contribution. Quand je dis contribution, ça veut dire deux choses. Elle a un rôle à jouer, mais elle n'est pas la seule à jouer ce rôle-là en matière de construction.
Oui, mais c'est pareil en fonction du milieu d'où on vient. C'est un lien avec la méritocratie. Est-ce qu'on a la culture générale ou pas ?
En revanche, sur cette notion, l'école doit porter des éléments de culture générale. Il faut avoir là, je rejoins ce qu'a dit à un moment donné François, il faut être sans doute moins ambitieux qui trop embrasse mal étreint, mais en revanche, être davantage exigeant sur ce qui doit constituer un socle commun de connaissances et de compétences.
Yann, sur le sujet ?
Oui, je crois qu'il y a un enjeu fondamental que l'école soit un lieu d'acquisition de cette culture générale. Sinon, la culture générale est ce qu'elle est souvent dans les représentations collectives, c'est-à-dire ce qu'on a acquis uniquement par ses expériences familiales, ce qui a un intérêt bien évidemment, mais qui est forcément très inégalitaire. Or, l'école comme lieu d'acquisition de la culture générale, c'est pas toujours conforme aux priorités qu'on donne à l'école. Alors quand je dis « on », ça peut être l'institution, ça peut être les enseignants, ça peut être les parents, ça peut être les élèves. Une école qui est avant tout un lieu de sélection, une instance d'allocation des places sociales, selon une logique que l'on veut méritocratique, et une école où on survalorise justement cet enjeu de sélection et d'orientation. Parce que si l'école est avant tout un lieu de sélection et d'allocation des places sociales, il est assez difficile de faire une vraie place à la culture générale parce que les savoirs sont finalement instrumentalisés pour assurer cette sélection. Ça mène à ce qu'on appelle dans les milieux anglo-saxons la technique du « teach to the test », c'est-à-dire enseigner pour pouvoir réussir les tests standardisés, qui sont un vrai problème aux États-Unis notamment. Et ça, c'est le contraire justement de la culture générale. Alors, je voudrais dire tout de même qu'il y a des signes très encourageants sur la culture générale. C'est par exemple le succès au lycée de la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, qui est vraiment perçue par les élèves, par les familles, par les enseignants, comme un enseignement de culture générale et qui est relativement déconnecté des enjeux de sélection et d'orientation.
Et aujourd'hui, la culture générale, est-ce qu'elle n'est pas trop tournée, d'après toi, sur le passé et pas assez sur l'avenir, parce qu'on a un monde aujourd'hui qui est dominé par l'IA ?
Eh oui.
Alors...
Ça, c'est un vaste débat, on pourrait en parler des heures. Mais
c'est une vraie difficulté. Question à poser. Et je crois qu'il est très important de développer une culture générale scientifique. Dans les représentations collectives, on se représente beaucoup trop la culture générale comme la littérature et l'histoire.
Oui, donc finalement, une culture générale moderne, c'est ça, un peu le numérique, les médias à l'école, l'IA. Enfin, aujourd'hui, il faut être un peu dans cette tendance-là.
Tout à fait. Tout à fait.
Moi, j'aimerais qu'on se débarrasse de ce mot. Culture générale, qui est un mot qui respire les salons. Enfin, je veux dire, il faut. Il y a un aspect, pardonnez-moi, ringard, je trouve, incroyable dans la culture générale. D'ailleurs, quand vous passez Sciences Po, vous avez une épreuve de culture générale qui est en fait.
Qui veut finalement tout et rien dire, c'est ça.
Qui sont aussi à savoir de quel milieu vous venez, il ne faudra pas se raconter d'histoire, etc.
Oui.
Je crois que la question qu'on devrait se poser, c'est qu'aujourd'hui, l'école n'a plus le monopole de la transmission du tout. Donc ça, c'est un vrai problème. Je veux dire que l'école républicaine que l'on évoquait, Ferdinand Buisson, Émile Durkheim, si vous vouliez apprendre quelque chose du monde, vous aviez le choix entre l'école ou l'école. Aujourd'hui, quand vous interrogez n'importe quel lycéen, il vous dit que l'essentiel de ce qu'il sait du monde, ce n'est pas à l'école qu'il a appris. Bon, parce qu'il est entouré de machines, d'écrans, etc., etc. Et je crois que la question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut qu'un gamin qui quitte l'école, après l'école commune à 16 ans, sache faire. Et je crois que cette question, ce n'est pas l'école qui devrait se la poser. À l'époque où c'est la mode des conventions citoyennes, moi je trouve que ce serait bien que ce soit la société, telle qu'on peut s'imaginer, qui dise voilà ce qu'il faudrait qu'un citoyen éclairé sache et sache faire. Mais le mot culture générale, pardonnez-moi, il me rappelle mon enfance. Enfin, je veux dire, il y a un aspect désuet. Trois citations littéraires, un vague théorème de Pythagore. Il y a un aspect. Aujourd'hui, c'est la question qu'il faudrait se poser, c'est que doit savoir sur le monde un gamin pour le comprendre. C'est ça la question. Et ça peut être des questions scientifiques extrêmement triviales. Je vais vous donner un exemple qui me frappe énormément. On vit dans un univers financier, aucun gamin de troisième ne peut vous dire combien ça coûte d'emprunter à 3%.
Ah oui, mais même les bases de pouvoir gérer son budget au quotidien, en fait. On n'apprend pas ça à l'école.
De savoir le faire. Excusez-moi. Vous voyez, donc je crois qu'il y a des choses comme ça en termes de vaccins, de médecine, etc. Voilà. Il me semble que cette question doit la reposer à nouveau frais, mais certainement la notion de culture générale respire trop le 19e siècle. Enfin, je veux dire, je vous suggère de l'abandonner.
Willy,
je voudrais rebondir sur tout ce qui a été dit là. En fait, moi, ce qui me dérange aussi dans ce terme-là, c'est qu'en fait, qui définit ce que c'est la culture générale et dans quel but ? Donc ça a été dit, hein, est-ce que c'est une classe favorisée qui va dire que le latin, à un moment donné, c'était le latin ou le grec, c'était la culture générale. Maintenant, c'est aussi la sélection, peut-être, encore une fois, au collège, la création de sous-groupes homogènes à travers l'option latin, ou encore pire, d'aller dire qu'on va aller faire l'enseignement du russe, bon, même si maintenant, je pense que ça a pris un petit peu un coup dans l'aile, ou
ça
du chinois.
De quel côté de l'échiquier politique.
Oui, voilà. Mais malgré tout, voilà. Donc, qui définit ça ? Hein, ça me dérange.
Oui, cette notion et, de culture générale,
aussi
comme
sur
disait
ce qui a été dit, donc,
François, qui était un
laisser
peu
une place. Oui, et laisser une place et aussi un outil de contrôle social, en fait.
Parce que finalement,
et de sélection
que,
de
est-ce que connaître les outils modernes, bah, finalement, c'est peut-être ça aujourd'hui, la culture générale.
Oui, mais pas que. Pourquoi focaliser
en fait
uniquement sur ces outils-là ça peut être aussi des savoirs manuels.
Hein, oui, tout à fait.
La culture générale, c'est savoir faire à manger, savoir se servir...
On l'a dit avant, pas, un peu, savoir gérer son budget, savoir... oui.
Savoir se servir d'une scie et d'un marteau. Hein, c'est très pratique et ça sert beaucoup dans la vie. Hein. Enfin, ça dépend pour qui, remarquez. Il y en a qui font en sorte que quelqu'un d'autre s'en serve pour eux. Mais donc ça, et la culture populaire là-dedans, hein, je veux dire, l'apparition des... Heureusement, les enseignants, par contre, là, l'intègrent régulièrement. Hein, l'apparition des mangas, on pourrait prendre plein d'autres exemples. Hein. La culture populaire intègre aussi petit à petit ce qu'on appelait peut-être avant la culture générale. Et ça, c'est peut-être pour le mieux, selon moi. Et après, moi, je voudrais juste souligner un point, c'est que si on garde ça, justement, cette culture générale en tête, et même si on modifie ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit des compétences numériques ou autres, je pense que ceux qui le pourront s'adapteront mieux que les autres pour réussir ces tests, quelque part, de culture générale. Et du coup, ce ne sera pas forcément un gage de réduction des inégalités. Donc, je ne vois pas forcément l'intérêt de rester focalisé sur cette culture générale.
Non, mais mes amis, je pense qu'on est d'accord sur l'idée que le concept de culture générale peut être considéré comme désuet, mais pour autant, il ne faut pas, me semble-t-il, deux choses. Un, ne pas s'efforcer à définir ce que doit savoir un lycéen d'aujourd'hui ou un lycéen d'aujourd'hui. Voilà ce qu'au XXe siècle, c'est-à-dire en 2025. Et le deuxième point, ça veut dire que forcément, cette somme de connaissances est à actualiser, à moderniser au rythme, effectivement, des différentes évolutions. Mais moi, j'insiste sur la nécessité de conjuguer ces deux éléments, c'est-à-dire ce que doit savoir impérativement un gamin quand il sort d'un collège, ce que doit savoir impérativement un gamin quand il sort d'un lycée. Voilà. Donc, il y a un substrat de connaissances et un substrat de savoir-faire. J'insiste sur la notion de savoir-faire. J'observe un point, juste une remarque, ça me... Pour avoir travaillé sur le socle commun de compétences et de connaissances, en fait, on a aussi une vision française qui est très connaissance au sens savoir, savoir littéraire ou savoir académique, au détriment des savoir-faire. Or, il n'y a pas de raison que, à l'aune de ce 21e siècle, si je puis dire, on ne redéfinisse pas cette notion de culture générale, y compris sous l'angle des savoirs, certes connaissances, modernisées, contextualisées et actualisées, mais aussi sur l'ensemble des savoir-faire. Si on ne réhabilite pas les savoir-faire, je crains qu'on ne soit pas adapté à l'aune de ce qu'est le 21e siècle.
Et est-ce qu'à contrario, peut-être le manque aujourd'hui de culture générale peut freiner une carrière professionnelle encore ? Yann ?
Alors, voilà, je voudrais revenir justement sur... Ce que disait un des auditeurs, informaticien, qui disait, moi, il suffit que j'apprenne à coder. On comprend bien que pour un informaticien, le plus important, c'est de savoir coder. Mais la façon dont il apprend à coder pendant sa formation sera très vite désuète, étant donné la très grande, désuète ou obsolète plutôt.
Oui, ça évolue très vite dans ce milieu-là.
L'accélération. De l'évolution technologique. Donc, je crois qu'il est très important aujourd'hui d'apprendre à être adaptable, à être capable d'apprendre par soi-même. Et justement, ce qu'on appelle la culture générale, c'est ça, même si c'est souvent dévoyé pour devenir, comme le dit François Dubay, une activité de salon et pour des échanges, d'aimables échanges. Mais la culture générale, ça doit être aussi un moyen de mettre en perspective ce que l'on apprend et d'être capable ensuite d'avoir suffisamment de recul par rapport aux compétences professionnelles que l'on a acquises pour être capable de les faire évoluer.
L'auditeur qui a appelé de Brest, je crois, disait « je n'ai pas de culture générale, donc je n'ai pas besoin de Molière et de la mythologie grecque », ce qui prouve qu'il a de la culture générale et qu'il fait semblant de ne pas en avoir. Donc l'affaire est réglée en ce qui le concerne. Je crois que ce qui caractérise aujourd'hui l'école, quand on interroge les élèves, ce que j'ai fait, les lycéens, c'est qu'ils vous disent à l'école, on ne fait rien. Ça paraît très étrange, mais ils ont raison. Ils disent, on ne fait rien, on apprend, on récite, et on passe à l'apprentissage suivant et on récite. On ne fait pas de science, on ne fait pas de théâtre, on ne fait pas de littérature. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et peut-être qu'aujourd'hui, la culture générale consisterait à ce que les élèves fassent des choses. Et de ce point de vue-là, il y a tout des courants pédagogiques que l'on connaît aux États-Unis, etc. Il faudrait peut-être que l'on ait une pédagogie qui mobilise l'expérience des élèves. Et on a plein d'enquêtes, d'ailleurs, qui montrent que ce dont on se souvient, il y a des enquêtes formidables qui interrogent des lycéens 10 ans après qu'ils aient quitté le lycée. Ils leur disent, de quoi vous souvenez-vous? De rien, sauf de ce dont je me suis servi après. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un biais chez les enseignants qui est pathologique, c'est que le prof de maths qui a fait des maths toute sa vie se rappelle des maths du lycée et pense que tous les élèves s'en rappellent. Or, ceux qui ne font pas de maths ne s'en rappelleront plus, jamais. On a fait des tests, vous avez fait 3 heures de physique par semaine, de quoi vous souvenez-vous? Au bout de 6 ans, je me souviens du bonhomme d'Ampère et encore.
Si c'est on ne l'utilise pas effectivement au quotidien,
voilà,
c'est
si
clair.
Donc, peut-être faudrait-il avoir une pédagogie qui mobilise des activités parce qu'on sait qu'on se souvient de ce qu'on a fait et pas tellement de ce qu'on a appris et récité pour passer des concours, pour devenir à son tour enseignant, ce qui est mon cas.
Alors, François, je prolonge ton propos. Deux remarques et deux expériences, et je pense que ça va faire écho à Willy. Je vous rappelle qu'il y a une petite vingtaine d'années, il y a eu dans le premier degré ce qu'on a appelé la main à la pâte. Je ne sais pas si François…
Si.
La main à la pâte, donc, c'était en particulier grâce à d'éminents scientifiques…
Ça sera la minute de la fin, Jean-Charles, avant qu'on fasse le tour de table pour vous dire au revoir.
D'éminents scientifiques qui ont fait valoir qu'apprendre des sciences, ce n'était pas simplement apprendre des connaissances, mais c'était faire des sciences. Deuxième remarque, en ce moment, on valorise beaucoup les méthodes mathématiques à Singapour, et on essaie d'ailleurs de les translater, y compris en France. Quelle est l'originalité des maths, en gros, à Singapour? C'est que je fais des mathématiques en faisant, évidemment, en maîtrisant un certain nombre de concepts, mais en essayant de voir quelle est l'utilité de ces concepts dans la vie quotidienne. Donc, effectivement, sur cette notion de culture générale, sans doute aujourd'hui, essayons d'avoir une lecture ou en tout cas une définition du concept qui soit moins académique, plus ancrée sur ce qu'est la réalité d'aujourd'hui et dans l'ancrage d'aujourd'hui, aller sur les savoir-être m'apparaît aujourd'hui une piste absolument.
Eh bien voilà, merci beaucoup Jean-Charles. Voilà, on va quand même faire un petit tour de table. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et ce débat ultra passionné. Je pense qu'on pourrait en faire plusieurs. Les heures passent très vite. Je pense que vous en êtes même pas rendu compte. Et nous non plus, et les auditeurs aussi, je pense. C'était effectivement Faut qu'on en parle. Dans notre émission, donc sur la méritocratie, nous recevions Jean-Charles Ringard, qui est inspecteur général de l'éducation du sport et de la recherche honoraire. Il a été coprésident du comité de suivi de la réforme du lycée de 2019 à 2023, aussi coordinateur d'un récent ouvrage en 2025, Le système éducatif français, principes, défis et gouvernance. Merci beaucoup Jean-Charles d'avoir participé à notre émission.
Merci.
On recevait aussi.
C'est un plaisir.
Partagé.
On recevait aussi Willy Charbonnier, qui est conseiller national politique éducative et jeunesse à l'UNSA Éducation. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Nous avions aussi Yann Forestier, qui est professeur agrégé d'histoire, historien spécialiste des débats publics sur l'éducation et la médiatisation des questions scolaires. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission, Yann.
Et merci pour votre invitation.
Et enfin, on avait François Dubé, qui est sociologue et professeur émérite à l'Université de Bordeaux et à l'EHESS. Merci beaucoup. Et c'était un plaisir de partager avec vous cette émission Faut qu'on en parle. On se retrouve très très vite sur le www.fautquonenparle.fr pour plein d'actualités, mais aussi pour écouter toutes nos émissions.
Exactement, sur toutes les plateformes de podcast aussi, on est partout. Voilà, vous pourrez retrouver sur les radios qui nous diffusent, évidemment, les radios partenaires de l'émission Faut qu'on en parle.
On se retrouve le mois prochain pour une prochaine enquête. À bientôt.
Bye bye bye.